Le petit Johannes, chapitre 5. Vous est-il arrivé d'errer dans les bois par un beau jour d'automne, quand le soleil rayonne sur les feuillages aux teintes opulentes? Les branches craquent et les feuilles tombées se froissent sous les pas. Une lassitude s'apesantit sur la forêt. À peine elle a la force de penser et elle semble se confiner dans ses souvenirs. Une buée bleuâtre l'enveloppe tel un songe plein de secrètes splendeurs, et des filles de la Vierge ondulent dans l'air, pareilles à des rêveries errantes. Alors, d'entre les mousses et les fans, se lèvent soudain des champignons, les uns contrefaits et charnus, les autres élancés, tiges cheveltes coiffées d'un chapeau aux vives couleurs. Ce sont des formes extravagantes surgies dans les cauchemars de la forêt. Les vieux troncs desséchés se hérissent de jets blancs, aux bouts noircis et comme brûlés. Des savants les prennent pour une sorte de lichen. Mais Johannes était mieux informé. Ces jets sont des chandelles, et, durant les calmes nuits de l'automne, les gnomes s'en servent comme luminaires pour lire dans leurs petits bouquins. Voilà ce qui lui enseignait Liceron, par une de ces journées d'arrière-saison aux éclats atténués, tandis que Johannes respirait la lourde exhalaison montant de la terre humide. Pourquoi les feuilles des frênes sont-elles tachées de noir? Demanda-t-il. C'est encore la faute des gnomes, répondit Liceron. Après avoir écrit toute la nuit, ils renversent le matin le rang crié sur ces feuilles qui ont le don de leur déplaire. Sans doute ont-ils conçu quelque rancune contre le frâne. De son bois, ce sont les manches dont se sert le marguillier pour sa quête au temple. Ces gnomes, minuscules et laborieux, excitèrent vivement la curiosité de Johannes, et il fit promettre à Liceron de lui en montrer un. Il avait passé déjà un long temps auprès de Liceron. Tant de bonheur le comblait qu'il n'éprouvait aucun remords de s'être engagé à oublier le passé. Les jours n'avaient plus ni soucis ni regrets, et la présence de Liceron, qui ne le quittait jamais, faisait de chaque heure un enchantement. Parfois il sommeillait doucement, balancé dans un nid de fauvettes, suspendu entre les branches vertes des roseaux. Les cris du buteur, les croassements des corneilles ne lui causaient pas de frayeur. Quand la pluie s'abattait et que se déchaînaient les grands vents, il s'abritait dans le creux d'un arbre ou dans un terrier et se glissait sous le manteau de Liceron, n'ayant d'oreille que pour les contes que lui faisait son compagnon. Et maintenant, il allait voir les gnomes. L'heure était à souhait, si tranquille que Johannes se figurait surprendre déjà leur voix ténue et le glissement de leurs petits sabots. Mais le jour tardait encore à finir. Presque tous les oiseaux s'en étaient allés. Seules les grives restaient à se régaler de baies de sorbier. Il en vit une prise dans un lacet. Les ailes ouvertes, elle pendait, et se démenait au point que sa fine patte, captive dans le nœud du crin, était presque arrachée. Précipitamment, Johannes la délivra et, avec mille cris d'allégresse, elle s'envola. Les champignons tenaient un colloque des plus vives. Admirez-moi donc, dit un des plus gros. Avez-vous jamais rencontré quoi que ce soit qui m'approche? Voyez ma tige blanche et dodue, et les nombreux reflets dont sort mon chapeau. Je vous dépasse tous de la taille, et pour cela, une seule nuit a suffi. Bah, dit un autre, tu as lourde, hâlée et mal dégrossie. Moi, pareil à un roseau, je me balance. Je suis revêtu du rouge éclatant des sorbiers et paré de ta velure. C'est moi qui suis le plus beau. Taisez-vous, cria Johannes. Je vous connais, vous êtes empoisonné. Et nous en sommes fiers comme d'une vertu, dit le premier. Seriez-vous par hasard un homme? Grommela le second champignon d'un ton dédaigneux. Dans ce cas, je consens volontiers que vous m'avaliez. Johannes s'en garda bien, mais il ramassa des brindilles sèches et les ficha dans leurs calottes charnues. Il faisait de la sorte un si drôle de personnage que les autres champignons pouffèrent de rire. Une troupe de vesses de loup, aux têtes brunes, qui, tout à la fois, avaient grandi en une couple d'heures, se bousculait, curieuse de voir le monde. À cet aspect, le gros champignon bleuit de colère, trahissant par ce signe sa complexion vénéneuse. Les fesses de loup élevaient sur quatre pieds leurs petites têtes rondes et enflées. Par intervalles, s'envolait d'elles une buée de poussière qui se déposait sur la terre humide et enfonçait des filaments noirs qui, l'an d'après, devaient produire de nouveaux rejetons. « Quel sort enviable ! » disait-elle entre elles. « Répandre nos sémences est le plus beau destin qui soit. Quelle délice de pouvoir le faire notre vie durante !» Et, poussée par une ardeur convaincue, elle continuait à souffler des bouffées. « Ne s'en font-elles pas à croire, Liseron ?»« Mais non ! Quelle volupté plus haute pourrait-elle concevoir ? Heureux un cœur qu'elle n'ait pas d'autre exigence !» La nuit, en s'abaissant et en confondant toutes les ombres dans ses ténèbres, n'avait point interrompu la vie occulte de la forêt. Des branches craquaient, des feuilles mortes continuaient à se froisser parmi les herbes et dans les broussailles. Parfois, on sentait passer le vent d'une aile silencieuse. Johannes entendit nettement des murmures, des glissements de pieds. Là, dans les profondeurs des buissons, des bleuettes de feu s'allument. Une. Encore une. Silence. Aux aigus, il surprit un marmonnement dans les feuilles, tout proche, derrière un tronc noir où brûlaient des lumignons. Partout, Johannes découvrait des lueurs. Elles flottaient entre les branchages nocturnes, sautelaient au ras du sol et au loin rayonnait un bûcher, pareil à un feu de joie. Qu'est-ce, cela ? Demanda Johannes. « Que de flammes ?»« C'est un vieil arbre tout vermoulu, » répondit Liseron. Ils se dirigèrent vers une petite lumière claire et immobile. « Je vais te présenter Vestik. C'est le doyen des gnomes et le plus érudit d'entre eux. » S'étant approché, il aperçut assis, les jambes croissées, près d'une chandelle qui éclaira son visage ridé à barbe grise. Coiffé d'une capsule de gland surmontée d'un plumet, il faisait à haute voix, en fronçant les sourcils, la lecture à une araignée. Quand Johannes et Liseron furent tout près, il leva les yeux de dessus son livre et resta à les considérer d'un air intrigué. L'araignée avait déguerpi. « Bonsoir, » dit le gnome. « Moi, je suis Vestik. Qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Johannes. » « Je désirais vivement vous connaître. Que lisez-vous là ?»« Un livre qui n'est pas fait pour vous, » répondit Vestik, « car il est écrit pour les araignées. »« Laissez-moi voir, » dit Johannes. « Impossible, je le regrette. Il s'agit de leur livre saint. Placé sous ma garde, je ne peux m'en dessaisir. Je détiens les textes sacrés des scarabées, des papillons, des hérisons, des taupes, enfin... » de toutes les créatures de la forêt. La plupart ne savent pas lire, et quand elles viennent s'informer de l'un ou l'autre point, je leur fais la lecture. C'est là un grand honneur pour moi, un poste de confiance, comprenez-vous ? Le petit bonhomme hocha la tête d'un air grave et leva un doigt en l'air. « Où en étiez-vous ? » À la vie de Kribeljau, le héros des araignées. Il y a des siècles, il descendit sur la terre et tissa une toile gigantesque qui embrassait au moins 3 arbres et captura les mouches par milliers. Avant lui, les araignées se nourrissaient d'herbes et de cadavres d'insectes. Mais Kribeljau, qui avait du génie, se mit à prêcher que les araignées étaient faites pour se repaître de mouches. À preuve de quoi ? Après des calculs laborieux, car il était également mathématicien, il construisit une toile sur le modèle de laquelle les araignées continuent à tisser la leur, quoique en plus petit, leur race ayant dégénéré. Kribeljau attrapait même des oiseaux et égorgeait des centaines de ses propres enfants. En un mot, c'était ce qu'on peut appeler une grande araignée. Un jour, une tempête violente déracina les trois arbres, lacéra la toile et emporta Kribeliaw dans une forêt lointaine où l'on vénère encore particulièrement sa mémoire. Et tout cela est véridique? Demanda Johannes. Du moins, c'est écrit, répondit Vestek. Y croyez-vous? Le gnome pinça les paupières et mit son index contre son nez. Les livres saints des autres animaux qui s'occupent aussi de Kribeliaw l'affublent des noms les plus odieux. Mais c'est là une controverse dont je veux me tenir à l'écart. Les gnomes ont-ils aussi leurs écritures sacrées? Vestek jeta à Johannes un regard quelque peu défiant. Qu'êtes-vous pour un personnage? Vous avez un je ne sais quoi, un je ne sais quoi d'humain, dirais-je presque. Non, non, soyez tranquille, intervint Liceron. Nous sommes des elfes. Johannes a beaucoup frayé avec les hommes, rien de plus. Vous pouvez sans crainte vous confier à lui. Vous avez beau dire, mais j'ai le renom d'être le plus savant des gnomes. Il m'a fallu peiner longuement et avec ardeur avant d'arriver où j'en suis. Trop parler risquera de porter atteinte à ma notoriété. Mais quel est donc, selon vous, le livre qui renferme la vérité? J'ai beaucoup lu, dit le gnome, mais ce livre-là, je ne crois pas l'avoir jamais rencontré. Ce ne peut être, en tout cas, le livre des elfes, ni le livre des gnomes. Et pourtant, ce livre existe.
Celui des hommes, peut-être?
Je n'ose pas me prononcer, car à qui le possède, ce livre, où se trouve révélée la nature des choses, doit apporter le bonheur et la sérénité. Qui le possède n'éprouve plus aucune inquiétude, aucun désir. Or, les hommes n'en sont pas encore à ce point.
Ah non, fit en riant Liceron.
Mais existe-t-il un tel livre? S'enquit avidement Johannes.
Oui, oui, murmura le gnome. Des légendes antiques et vénérables l'affirment. Mais silence, je sais où il est, je sais qui le découvrira.
Ah, Vestek, Vestek.
Mais si tel est, pourquoi ne l'avez-vous pas encore? Demanda Liceron.
Patience. Je n'ai plus besoin que des quelques données que je ne tarderai pas à me procurer. À celui qui trouvera ce livre, la vie apparaîtra comme une perpétuelle matinée d'automne, toute baignée, toute environnée d'azur, au feuillage silencieux et calme, et dont l'heure ne pâlira jamais. Auprès de sa félicité, nos clartés seront des ombres et nos joies des tristesses. Voilà ce que je sais et bientôt j'aurai trouvé le livre.
Vestek arqua les sourcils, posa un doigt sur ses lèvres.
Vestek, enseignez-moi, reprit Johannes. Mais il ne put poursuivre. Une masse noire passa, rapide et sans bruit, en rafale. Abaissant les yeux, il aperçut la pointe d'un soulier qui disparaissait dans une fente.
Pfft!
Le gnome avait, en portant son bouquin, plongé la tête la première dans son trou. La chandelle brûla plus faiblement, puis d'un coup s'éteignit.
Qu'est-il arrivé? Demanda Johannes alarmé en se cramponnant à Liceron dans les ténèbres.
Rien, un hibou.
Ils furent un long moment silencieux. Johannes dit enfin:
Crois-tu, Liceron, à tout ce que Vestek vient de nous dire?
Vestek est moins sage qu'il n'aime à se le figurer. Le livre des vérités, il le cherchera en vain, tout comme toi d'ailleurs.
Mais existe-t-il?
Oui, il existe à l'égal du nombre, Johannes. Tu as beau la poursuivre, tu ne pourras jamais ni la joindre ni la saisir, et à la longue, tu reconnaîtras que tu n'as fait que te poursuivre toi-même.
Sois raisonnable et oublie les racontars de ce gnome. Mes histoires sont incomparablement plus belles. Viens, nous irons à l'orée de la forêt, voir le matin d'automne étendre ses voiles blonds sur les prés assoupis. Viens.
Johannes le suivit. mais il n'estima point les conseils de Liceron et, tandis qu'il admira le lever resplendissant du jour, il se préoccupait du livre qui devait lui révéler pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Et doucement, il invoquait Vestic. Or, ce nom signifie « Puissais-je savoir ?» Et Johannes, sans cesse, murmurait en soi-même « Vestic, Vestic ».